Voilà, toujours sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et puis, bah, voilà, on accueille ce soir Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot qui publient la sociologie de Paris, sociologie de Paris aux éditions Repère, aux éditions La Découverte. C'est un repère. Alors, Michel Pinson, Monique Pinson-Charlot, on vous connaissait comme sociologue de la bourgeoisie puisque ça fait des années que vous travaillez sur les classes les plus aisées de notre société. Et voilà, alors qu'est-ce qui vous amène à changer de... Enfin, vous ne supportez plus les bourgeois, en fait ?
Pas du tout. C'est qu'on travaille toujours sur les dominants. Alors là, la grande bourgeoisie, et puis Paris. Ben, Paris, c'est la capitale. C'est aussi le capital. Le capital rime avec la capitale, et la rime est riche. C'est-à-dire que à Paris... se concentrent tous les pôles dominants de tous les secteurs de l'activité économique, toutes les formes de richesse dans une capitale toute ronde qui ne fait que 87 km². C'est-à-dire on a là une véritable situation de laboratoire. On voit dans un espace qu'on peut parfaitement mémoriser tout l'espace social des grands bourgeois ou travailleurs immigrés. Il suffit de marcher quelques kilomètres et on parcourt l'espace parisien comme on parcourt la société.
Avant d'entrer dans le détail de la sociologie de Paris, quelle a été votre méthode en fait, pour justement travailler sur ce livre, la sociologie de Paris ?
Comme d'habitude, on a travaillé en utilisant des méthodes très variées. On a l'habitude d'utiliser les statistiques de l'INSEE, par exemple, des documents écrits, même iconographique éventuellement, et de pratiquer une certaine anthropologie, une certaine forme de sociologie ethnologique en allant au plus près de la population dont nous parlons. Alors ça nous a amené à fréquenter la grande bourgeoisie dans des circonstances très sélectes. Ça nous a amené aussi à aller à l'hôtel rue des Poissonniers en face de la mosquée de la rue Polonceau. Donc voilà, notre démarche, elle est de comprendre par les chiffres, par les documents, de grands mouvements dans la ville et de voir comment ils se traduisent dans la vie des gens quotidiennement.
Et vous travaillez toujours en binôme ?
Ah ben, depuis 1987, on travaille ensemble. Avant, ce n'était pas le cas. Quand on s'est mis à travailler ensemble, bien entendu, toutes les copines ont programmé le divorce dans les 6 mois. Et puis, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On s'entend très bien ailleurs, mais aussi dans le travail, parce qu'on est tout à fait complémentaires et on se complète, quoi.
On se complète, oui, tout à fait. Par exemple, vous voyez, lorsque Monique a un silence, moi, je reprends la parole. Et donc, ça va, ça se passe toujours très bien.
Je voulais rajouter quelque chose à propos du travail en couple. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis à travailler en couple à partir du moment où on a décidé de travailler sur la grande bourgeoisie. Et parce qu'il n'y a pas de sociologue qui travaille sur la grande bourgeoisie, donc on s'est dit, il vaut mieux être deux à deux, on est plus fort. Et puis, en réalité, a posteriori, on a reconstruit ça, notre trajectoire. Et en réalité, c'était très bien qu'on se mette ensemble pour faire ce travail. Parce que comme la grande bourgeoisie, dans la grande bourgeoisie, la famille est vraiment au cœur du dispositif de la reproduction des positions dominantes, puisqu'il s'agit, quand on a des patrimoines importants, de transmettre. On formait déjà une petite famille rien qu'à nous deux. Et on a été invités à des cocktails, des dîners, des week-ends au château, et tout s'est très très bien passé.
Avant de travailler justement sur de parler de l'embourgeoisement de Paris, il serait peut-être intéressant de voir comment est née cette ville et l'histoire un peu de Paris pour comprendre la sociologie aujourd'hui de la capitale.
C'est vrai que pour comprendre une ville, il est intéressant de faire une petite plongée dans le passé, pas nécessairement très loin. Pour Paris, c'est particulièrement important parce que la ville porte profondément les traces de son histoire. Son histoire, c'est une ville qui est née à Lutèce, sur les îles, sur la Seine, et puis avec les fortifications qui a grandi de façon concentrique, une bulle qui a gonflé jusqu'à la limite d'aujourd'hui, avec à chaque, pour différentes périodes, des limites marquées par les anciennes fortifications. Les plus anciennes sont assez difficiles à voir, mais il y en a deux plus récentes qui sont tout à fait visibles, par contre. C'est l'enceinte des fermiers généraux construite à peu près au moment de la Révolution française. Cette enceinte des fermiers généraux, ce sont les boulevards qui vont, par exemple, de Stalingrad, où nous sommes à peu près, à Clichy, en passant par les boulevards, et au sud d'Enfer Rochereau à la place d'Italie. Par les boulevards, on retrouve cette trace qui marque bien Paris. Et surtout, aujourd'hui, c'est encore plus important, c'est le périphérique et les boulevards des Maréchaux. Et là, ce sont les anciennes fortifications de Thiers, construites vers 1840, qui ont été rasées à partir des années 1920 et qui ont été, après être rasées, il n'y a pas eu de plan d'urbanisme d'ensemble, ce qui fait que ça a été fait un peu n'importe comment. Il y a eu des stades, des jardins publics, il y a des équipements collectifs, des installations de la ville de Paris, il y a des logements HBM, des barres de logements HBM, il y a différentes installations qui reproduisent d'une certaine manière les anciennes fortifications et qui font une coupure entre Paris et sa banlieue, qui est une coupure physique que l'on retrouve après dans les représentations et dans les différences de population habitant soit banlieue, soit Paris.
Alors même si votre angle d'attaque pour vous intéresser à Paris, c'est la bourgeoisie, Paris, ça reste quand même une histoire, c'est une ville qui a une histoire populaire d'une somme absolument... une somme de révolte populaire. C'est une ville aussi qui va accueillir l'immigration
provinciale d'abord,
provinciale, puis étrangère. Donc la population en partie la plus pauvre qui arrive en France. Alors comment ça cohabite tout ça,
c'est ça qui nous intéresse vraiment beaucoup, c'est-à-dire que avoir tant de distance sociale avec tant de proximité physique, c'est quand même assez rare, c'est assez unique, même au monde. De telle sorte que, à Paris, donc on peut aller du nord du 16e à Barbès ou Stalingrad, comme on marcherait, comme on irait des industriels, des grands bourgeois aux travailleurs immigrés. Et alors, comment tout ça coexiste ? Comment toutes des catégories sociales aussi contrastées peuvent-elles cohabiter ? Alors finalement, ce qu'on remarque à Paris, c'est une situation qui est assez exceptionnelle quand on réfléchit à la mixité sociale qui est le grand
leitmotiv des politiques lorsqu'ils parlent de la ville et en particulier de Paris.
Tout le monde veut faire de la mixité sociale. Et finalement, on trouve qu'à Paris, ça ne se passe pas si mal. Parce que finalement, donc, dans cette petite ville toute ronde de 87 km², je rappelle pour vos auditeurs que Madrid, Londres et Berlin, c'est autour de 2000 km². On est dans une capitale où il y a des densités absolument extraordinaires, des densités. Alors Michel, je t'interpelle pour les densités parce que moi j'arrive jamais à me rappeler qu'il faudrait que je parle des villes d'Afrique ou d'Asie.
Pour trouver des densités équivalentes, ce qui est l'une des dimensions qui explique l'intensité de la vie urbaine à Paris. Alors vous avez, pour donner des chiffres, 20 000 habitants au kilomètre carré en moyenne dans Paris. Cette moyenne baisse beaucoup dans les beaux quartiers de l'Ouest, évidemment. On a 10 000 habitants au kilomètre carré dans le 8e arrondissement. Par contre, on arrive à 40 000 habitants dans le 11e. Donc, il y a des quartiers qui sont d'une densité qui sont vraiment des densités de villes asiatiques ou africaines.
Jérémy nous disait qu'avec la famille Guémard, ça, tout allait changer
dans le 8e.
Dans le 8e.
Pour la densité, parce qu'ils ont 8 enfants dans un appartement.
Ah ben, le 8e arrondissement est un arrondissement particulièrement intéressant du point de vue de la densité, puisque c'est l'arrondissement qui a perdu le plus d'habitants depuis les années 50. Et c'est l'arrondissement où il y a eu le plus de transformations de logements en bureaux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les beaux quartiers parisiens, bien entendu, sont au départ habités par les grandes familles de l'aristocratie et de la bourgeoisie. Mais ces familles qui ont du capital symbolique, qui déposent dans leurs adresses de la magie sociale, du capital symbolique, du renom. Enfin bref, les belles adresses deviennent une véritable griffe spatiale qui attire la convoitise des sièges sociaux des grandes entreprises industrielles et bancaires et surtout des commerces de luxe, de telle sorte que même les familles les plus fortunées ne sont pas du tout de taille à faire face aux forces qui travaillent la ville. Et nous avons fait des enquêtes très précises auprès de familles qui ont littéralement très riches, qui ont été expulsées en quelque sorte du 8e arrondissement. Je vous rassure tout de suite, elles ne sont pas trop à plaindre. Elles sont parties un peu plus loin à l'ouest. Hein, c'est une véritable. On peut parler d'une véritable conquête de l'ouest à Paris. Les grandes familles étant toujours, allant toujours de plus en plus loin à l'ouest, parce que sur leur brisée résidentielle, en quelque sorte, s'installent les sièges sociaux des grandes entreprises industrielles et bancaires et des commerces de luxe.
Il y a une explication à cette division est-ouest, riche-pauvre dans Paris ?
Oh, il y a une explication. Il y a une explication bateau qui est de dire que les industries étant plutôt à l'est, le vent dominant étant plutôt à l'ouest, on se met à l'ouest pour ne pas avoir les fumées. Bon, c'est une explication tout à fait relative. D'abord, le Marais, qui est bien à l'est, a été le quartier le plus chic de Paris à une certaine époque. C'est vrai que c'était au 17e. Il n'y avait pas beaucoup d'industrie, mais il y avait quand même pas mal de fumée venant des modes de chauffage archaïques qu'il y avait à l'époque. Non, ce qui se passe, c'est que cette opposition est-ouest renvoie plutôt au fait que la cour s'étant installée à Versailles, les aristocrates ont abandonné le Marais pour se rapprocher de Versailles, pour ne pas avoir à traverser le cœur de Paris qui était invraisemblablement encombré à l'époque et un peu dangereux. Et donc, sont allés coloniser le faubourg Saint-Germain, c'est-à-dire le 7e arrondissement. Et à partir de là, l'Ouest est devenu le quartier du développement des quartiers bourgeois, et l'Est a été abandonné, disons, aux ateliers, aux usines et aux logements ouvriers.
Oui, moi, je rajouterais volontiers, effectivement, un beau quartier, ça se crée sur des terres vierges. C'est-à-dire que les Champs-Élysées, le faubourg Saint-Germain, le faubourg Saint-Honoré, c'était des terres conventuelles, des terres maraîchères. Et un beau quartier, ça se crée ex nihilo. Les grands bourgeois ne se réapproprient jamais un habitat populaire. C'est les nouveaux bourgeois, les bobos, qui se réapproprient l'habitat populaire de l'Est parisien.
Alors, on a cité les deux termes à ISFA, mixité sociale et bobo, les deux termes qui font débat. Peut-être qu'avant de reprendre le cours de cet entretien, on pourrait se faire un peu le point sur qu'est-ce qu'il y a derrière ça, quelles idéologies ça supporte. On peut peut-être commencer par la mixité sociale, puisque tout le monde est d'accord, il faut de la mixité sociale. Et moi, j'ai cru comprendre que ça voulait dire qu'il fallait moins de pauvres.
C'est un peu ça, c'est-à-dire que il y a deux termes, hein. Il y a paupérisation d'un côté et il y a mixité sociale de l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des catégories moyennes ayant des revenus à peu près corrects et une situation dans la société satisfaisante, lorsqu'il y a des catégories moyennes de ce type qui arrivent dans des quartiers populaires, on parle de mixité. C'est-à-dire que c'est positif, c'est quelque chose qui est bien, etc. C'est de la mixité sociale, on mélange les catégories sociales. Lorsqu'il y a des quartiers bourgeois qui se paupérisent, où il y a des catégories populaires qui arrivent, c'est par exemple ce qui s'était passé dans le quartier du Marais, on parle de paupérisation, de dévalorisation urbaine, c'est-à-dire que c'est stigmatisé négativement. Alors, ceci dit, la mixité, c'est pour nous, d'abord, le travail qu'on a fait sur le Gîte Paris, c'était une entreprise, c'est un petit livre, hein, la collection Repères, c'est 128 pages, donc c'est un petit livre. De quoi parler sur la sociologie de Paris en 128 pages, on a choisi un axe, on ne pouvait pas parler de tout. Et l'axe, ça a été quand même assez fondamentalement celui de la mixité. Alors, cette mixité, comment l'appréhender? Il y a les statistiques, il y a aussi dans le livre un travail qui porte, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le vécu des quartiers. Et vous avez à la fois dans le livre des éléments chiffrés et des éléments qui montrent l'évolution de la ville à partir de cette arrivée de catégories relativement favorisées, je dis bien relativement, dans l'Est, par exemple autour du quartier de la Bastille. Et autour du quartier de la Bastille, ce qu'on voit, c'est que lorsque le marché est libre, lorsque le marché immobilier n'est pas régulé par une intervention publique, disons, ce qui se passe, c'est que vous avez le départ des catégories populaires sous la pression des prix et l'arrivée de catégories qui peuvent payer des prix plus élevés. Ça se fait assez lentement, ça se fait avec l'arrivée d'abord de jeunes qui viennent remplacer des ouvriers qui partent parce que les ateliers d'ébénisterie sont partis. Et petit à petit, vous avez par contre des marchands de biens et des promoteurs qui restaurent des immeubles et qui revendent à des prix absolument prohibitifs. Auprès de la place de la Bastille, vous avez la cour d'Amois, une cour d'anciens ateliers d'ébénisterie, où on a gardé le mont de charge pour faire bien industriel 19e siècle dans la cour. Bon, il y avait un gros mont de charge industriel, on l'a gardé. Mais ceci dit, on vend les appartements qui ont été refaits dans les logements ouvriers qu'il y avait dans cette cour au prix du 6e arrondissement, c'est-à-dire 5 000 euros le mètre carré.
Alors, est-ce que je peux rajouter quelque chose sur la mixité sociale?
Je vous en prie, faites-le.
dans ce petit livre, on se pose la question de l'échelle de la mixité sociale. Parce que c'est vrai que nous, comme on est spécialistes de la grande bourgeoisie, de quoi on s'est aperçu en travaillant sur une catégorie où il n'y avait aucune contrainte économique? On s'est aperçu que les 10 000 membres des grands cercles parisiens, eh ben, ils habitaient tous le nord du 16e, le sud du 17e, un peu le 8e, et puis sur Neuilly. Mais ici, on est dans un arrondissement, on doit être dans le 19e ou le 20e.
On est à la limite 19e, ouais. Puisque là, la radio est à Stalingrad.
Ben, c'est zéro, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui habite ici, qui habite dans les arrondissements. Donc, il y a un entre-soi. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on a les moyens de choisir son voisin, eh bien, il n'y a pas d'hésitation, on choisit son semblable. Donc, tous les travaux de sociologie montrent que lorsque l'on mélange des classes sociales, des gens qui sont distants socialement, dans le même immeuble, dans une situation de proximité physique, en réalité, on ne crée pas de la convivialité, mais on exacerbe au contraire les différences sociales. De sorte qu'avec Michel, nous nous sommes posé la question de l'échelle de la mixité. Comme sociologue, notre réponse est très claire. C'est à l'échelle de Paris que l'on doit penser la mixité. Et au fond, aujourd'hui, dans Paris, il y a un espèce d'équilibre qui n'est pas si mal que ça. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des noyaux sociologiques très prononcés, mais où il y a quand même une certaine fluidité avec le métro, enfin avec il y a un système de communication. Par exemple, si on prend le quartier chinois, on ne peut absolument pas dire que le quartier chinois, c'est un ghetto. Et s'il y a un ghetto à Paris, c'est dans les beaux quartiers, c'est la Villa Montmorency. Hein. Mais politiquement, si on change d'univers, on quitte la sociologie et on se dit... et si j'étais Bertrand Delanoë, et si j'étais responsable au niveau de l'équipe municipale, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, en effet, la réponse serait différente. Moi, je crois que ce qu'est en train de faire l'équipe municipale actuelle, d'instiller de la mixité sociale durable dans tous les arrondissements de Paris, y compris dans les beaux quartiers, je pense que c'est une très bonne décision.
D'accord.
Non, mais on pourrait... on peut rebondir là-dessus. On peut rebondir là-dessus parce que que peut faire la municipalité de ce point de vue? Elle ne peut pas changer la composition sociale du 8e arrondissement ou du 16e. C'est pas possible. Ce sont des quartiers bourgeois. Pour l'instant, ils resteront bourgeois, c'est clair. Simplement, il y a des gens de conditions modestes qui sont encore dans quelques poches d'immeubles relativement pauvres du 16e ou du 8e arrondissement, qui sont souvent des gens qui sont d'ailleurs au service des familles qui habitent dans le même quartier. Ces gens-là sont habitués à vivre avec des bourgeois et dans un quartier bourgeois. Ils donnent de la mixité, un élément de mixité dans ces quartiers. Et ce que fait la municipalité, ce qui me paraît relativement intéressant, mais qui n'est pas quelque chose de décisif et de fondamental, c'est que en préemptant des immeubles dans ces quartiers-là, en les faisant passer sous le régime du logement social, du secteur HLM, elle peut reloger des familles du quartier qui, sous la pression immobilière, seraient à terme forcées à partir, ne pourraient pas rester dans ces arrondissements-là, s'éloigneraient de leur lieu de travail. Et on fixe comme ça, ils peuvent aller ailleurs s'ils veulent, mais on leur permet de rester dans le 8e ou dans le 16e et donc de maintenir un minimum de mixité sociale dans ces quartiers. Donc voilà un peu ce qui se joue en ce moment dans les beaux quartiers parisiens. Par contre, dans d'autres arrondissements, ce qui est extrêmement important vers l'est de Paris, le nord, le sud un peu, c'est d'abord évidemment de maintenir les logements sociaux et d'en construire le plus possible, parce qu'on s'est bien rendu compte que l'embourgeoisement de Paris, lorsque c'était le marché qui était la loi, eh ben on voit très bien ce qui s'est passé autour de la Bastille. Par contre, du côté de Ménilmontant, il y a beaucoup de logements sociaux, et là évidemment les gens qui sont dans les logements sociaux, ils restent, ils partiront pas, il restera une fraction de catégorie populaire.
Oui, puisque vous expliquez dans une partie du livre qu'il y a à peu près un tiers des logements dans le 20e qui sont des logements sociaux et que ça modifie complètement. Alors vous amenez l'idée que ça modifiera cette poussée vers l'est de.
C'est pas vraiment que ça la modifiera, c'est que ça l'empêchera. C'est-à-dire que le logement social dans les quartiers, dans les arrondissements de l'Est et du Nord de Paris, sont un frein, en quelque sorte, à ce que nous appelons, non pas l'embourgeoisement, parce que comme spécialiste de la grande bourgeoisie, c'est vrai qu'on a du mal à parler d'embourgeoisement à propos de catégories qui sont finalement... des cadres très diplômés qui travaillent dans des secteurs de la création, des nouvelles technologies ou des médias. La gentrification qui désigne un phénomène qui est à la fois physique, culturel, social, un processus à l'œuvre dans les quartiers populaires. Finalement, on voit bien, par exemple, prenons le 20e arrondissement, on prend la rue, je monte la rue Ménilmontant, je tourne à droite, je prends la rue Boyer. Tout ça est assez gentrifié. Hein, il y a la maroquinerie, il y a le restaurant chez Jean. Enfin bref, il y a des tas de poches de gentrification.
Alors, chez Jean, ça a fermé. Hein, ça a été repris. Ça
tout récemment, alors.
L'illustration, c'est meilleur et beaucoup moins cher. Hein.
Alors ça, c'est... Et on arrive, on bute sur les HLM de la Fondation Le Body, sur des bars HLM qui, de toute façon, sauf à les faire imploser, ne seront jamais réappropriables ni réappropriés pour des raisons politiques, économiques, sociologiques, par d'autres couches que des catégories populaires.
Thank you. problema como la gana de estar contigo, niña, perdón. No puedo, no puedo llevar besas hasta Place Clichy contigo. De barbes hasta Place Clichy, por la última vez. En el río de fuego, en la corriente del infierno, París, dame un beso y cógeme en tus brazos. Cada día me levanto con la misma ganas de estar contigo, niña, perdón. No puedo, no puedo.
Voilà. Alors, quand on est dans un bar ou un restaurant à Ménilmontant, on se regarde les uns les autres et on a toujours l'impression qu'il y a des nouveaux venus à côté de nous. On appelle ça les bobos. Alors moi, dans mon esprit, les bobos, c'est l'autre. Mais manifestement, ça recouvre quelque chose de plus compliqué que ça. Et surtout, c'est un terme, malgré ce qu'il peut recouvrir, que vous remettez en question. Est-ce qu'on pourrait avoir deux mots sur les bobos?
Ben, les bobos, le problème, c'est que il y avait un vide, disons, dans les catégories de l'INSEE. Il n'y a pas de catégorie de l'INSEE, il n'y a pas de catégorie statistique constituée qui puisse permettre de cerner cette population. Parce que, en fait, elle se caractérise par un âge plutôt jeune, enfin, c'est plutôt des personnes. C'est pas des retraités, ce sont plutôt des actifs, des gens qui ont fait des études assez longues, souvent, qui ont un certain niveau de diplôme, un métier relativement stable et des revenus, disons, corrects. Ce sont des gens qui travaillent dans des secteurs d'activité surtout autour de la communication, de la création. Ça peut être la mode, ça peut être la radio, la télévision, ou les arts plastiques, le design, les cabinets d'architectes, etc. Ces gens-là se caractérisent essentiellement par rapport à la bourgeoisie de l'Ouest par le fait que ce ne sont pas des héritiers. Voilà, je crois que c'est ça qui est tout à fait caractéristique. Ce ne sont pas des héritiers, ce sont des gens qui vivent de leur travail. Ce qui est tout à fait différent de ce qu'on trouve à l'Ouest, où la quasi-totalité des ménages bourgeois de l'Ouest sont des gens qui vivent en partie du travail de certains d'entre eux, mais qui vivent aussi des revenus de leur patrimoine. Et ça, ça change tout. Et on est vraiment dans la bourgeoisie. Alors qu'à l'Ouest, c'est une bourgeoisie, c'est une petite bourgeoisie qui travaille et qui vit de ses revenus du travail.
Et moi, je rajouterais que ces bourgeois... Pourquoi nous, même si la catégorie qui vient des États-Unis, les bourgeois bohèmes, les bobos, ça ne nous satisfait pas tellement... En même temps, c'est assez juste sur le plan sociologique, c'est-à-dire que donc Michel vient de montrer qu'il s'agit de ces jeunes adultes inscrits dans des secteurs de l'activité économique et sociale très particuliers. Et moi, je rajouterais qu'ils manifestent des modes de vie qui ne sont pas du tout traditionnels comme ceux des bourgeois de l'Est, c'est-à-dire
de l'Ouest, que
ce sont des modes de vie... je sais pas, très en phase avec l'écologie, le Pax, la parité, les modes de transport doux, le vélo, la marche à pied. Et alors, évidemment, on a vite fait de faire le pas avec la victoire de la gauche plurielle au municipal de 2001.
Bah alors, faisons le pas. Faisons le pas, Paris était installé depuis 77,
depuis quand il y avait le Grand Chelem, c'est 83.
Voilà, mais depuis 77, depuis que Paris a un maire élu au suffrage universel, c'était à droite.
Alors, oui, c'est ça. C'est intéressant parce que, pourquoi est-ce qu'il n'y a que depuis 1977 qu'il y a un maire et un conseil municipal élus comme dans les autres communes à Paris ? Parce que Paris a été une ville, peu commode. Les révolutions et les soubresauts politiques l'ont beaucoup agité. Et Paris est une ville un peu revêche, un peu difficile pour le pouvoir. Et le pouvoir n'a pas osé, lorsque les communes ont été constituées vers 1789, partout il y a eu des maires et des conseils municipaux, mais pas à Paris, parce que Paris était quelque chose qui était jugé comme incontrôlable et qu'il ne fallait surtout pas que Paris ait une expression politique autonome. Ce qui s'est d'ailleurs manifesté avec la commune de Paris qui a failli changer les choses, la donne politique en France, si la commune avait conquis le pouvoir national, ça aurait été une victoire des Parisiens pratiquement. Ils ont perdu et c'était un peu l'opposition entre Paris, ville très ouvrière à l'époque, entre Paris et la province qui était encore très rurale. C'était un des éléments de l'opposition très, très, très intense entre la province et Paris, dont on retrouve des traces aujourd'hui sous d'autres modalités.
Alors, par rapport aux élections, moi, je rajouterais volontiers la chose suivante. D'abord, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que si on regarde 2001 et un siècle avant, eh ben, on voit qu'il y a toujours cette ligne de fracture formidable entre l'Ouest et l'Est. Or, la composition sociologique a complètement changé. Donc, la droite, je vous rassure, est à l'Ouest et la gauche à l'Est. Mais... entre-temps, il y a eu ce qu'on appelle le grand chelem de droite, c'est-à-dire que pendant pratiquement toute la présidence de François Mitterrand, et c'est très très intéressant de réfléchir à ça, c'est-à-dire que quand le pouvoir central est à droite, Paris est à gauche. Quand le pouvoir central présidentiel est à gauche, comme par hasard, Paris vote à droite. Hein, le grand chelem... ça a été pendant les deux mandats de François Mitterrand. Et nous, avec Michel, on pense que ça n'est pas par hasard.
En tout cas, ce qu'on peut souligner, c'est que Paris a été une ville très ouvrière au moment de la Commune, et puis jusqu'à la Libération et après la Libération. En 1954, il y avait 65% d'ouvriers, d'employés et de personnel de service à Paris. Aujourd'hui, enfin en 99, et il y en a moins maintenant, c'était 35%. Et inversement, pour les cadres supérieurs et les patrons. Bon. Donc, c'était une ville très ouvrière qui s'est extraordinairement, disons, embourgeoisée, entre guillemets. En 77, elle était encore, elle était beaucoup plus ouvrière qu'en 99,
le dernier recensement, où on a les catégories socioprofessionnelles.
Et qu'en
2001,
élection de Bertrand de Lannoy. En 2001, la ville est beaucoup moins ouvrière qu'en 1977. Et c'est en 2001 que la majorité municipale bascule à gauche. Donc il y a un paradoxe qui mérite qu'on s'y attarde.
Et alors, justement, quelle est l'explication de ce paradoxe?
Les hypothèses qu'on a émises dans ce petit livre, c'est que, au fond, les nouvelles catégories sociales qui ont investi tous ces tests parisiens, qui est quand même celui qui a le plus bougé au niveau sociologique, sont, comme je l'ai dit, des catégories qui favorisent l'écologie, qui favorisent les modes de transport doux, etc., et qui se sont trouvées en concordance, en homologie parfaite, avec les propositions de la gauche plurielle. Donc c'est un paradoxe apparent, mais que sociologiquement on peut totalement...
Et vous dites aussi dans votre livre que c'est un peu pour avoir bonne conscience finalement que les gens ont voté à gauche.
Je ne crois pas qu'on ait écrit ça dans notre livre.
La bonne conscience, c'est plutôt, le fait de toujours mettre en avant l'idée de mixité et de vouloir... Il y a quelque chose qui nous a frappé en allant
dans
les...
Oui, on parle de résidentiellement correct, effectivement, vous avez raison.
Il y a quelque chose qui nous a frappé en allant dans les cafés, par exemple, de la rue du Faubourg Saint-Antoine. C'est le fait que ces cafés mettent en scène, dans leur décor, des éléments du monde ouvrier. Ce qui est impensable dans un café ouvrier d'Aubervilliers. On ne va pas mettre un outil comme ça sur le mur. Bon. Et ça se fait pourtant dans la rue du Faubourg Saint-Antoine. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de nostalgie du Paris populaire, une espèce peut-être de mauvaise conscience, effectivement, d'avoir un peu pris la place des autres, qui a peut-être eu des répercussions politiques, mais ça, il faudra faire une enquête spécifique pour en être sûr.
Oui, c'est vrai qu'on peut même parler d'écomusées. Les cafés branchés de ces arrondissements de l'Est, c'est des vrais écomusées de la culture ouvrière.
Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain, les gens de la police police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui, mais sabre en dedans.
Alors voilà la... La semaine sanglante pour évoquer un peu le Paris révolutionnaire, ou en tout cas la légende du Paris révolutionnaire, à la fois pour ouvrir un petit peu sur l'ensemble des événements qui ont pu marquer la capitale, mais encore aujourd'hui sur le fait que les grands événements politiques, les grandes manifestations continuent à se dérouler à Paris. C'est-à-dire on monte, c'est quand même très rare que ça se passe autrement quand c'est vraiment un moment central. On monte à Paris, de toute la France, de toute la province. Qu'est-ce que ce rôle qui continue à être central pour la politique de rue ?
Oui, d'une certaine façon, c'est un peu une variante sur le fait que Paris incarne le centralisme français et concentre tous les lieux de pouvoir dans tous les domaines, pratiquement. Alors, bien sûr, c'est vrai des arts, des lettres. Par exemple, il y a 70% des gens qui travaillent dans le secteur du cinéma qui vivent à Paris. Bon, c'est énorme. Pour l'édition, c'est pareil.
Pour les chercheurs aussi.
Pour les chercheurs, c'est un peu
40%,
moins. 40%. 42%. Alors, il y a cette concentration des pouvoirs. En fait, lorsque il y a une manifestation nationale, elle ne peut pas avoir lieu ailleurs qu'à Paris parce que c'est le cœur du pouvoir et du pouvoir économique aussi, puisque les sièges sociaux des entreprises y sont très, très massivement.
Oui, mais alors quand on analyse les parcours que font les manifestants en fonction des objectifs qu'ils cherchent à atteindre, on s'aperçoit que les parcours sont variés. C'est-à-dire qu'en 1968, lorsque la bourgeoisie a décidé de descendre dans la rue pour mettre fin à un mouvement populaire et estudiantin, elle a manifesté sur les Champs-Élysées. La CGT et le Parti communiste ont leurs habitudes, si je ne dis pas de bêtises.
Entre Nation République Bastille.
Voilà.
Ça, c'est un grand classique. Il y en a un qui se développe en ce moment, c'est le Place de Clichy Stalingrad. Je crois que c'est de plus en plus ce qui
Plus pour les précaires.
Alors, c'est les sans-papiers. Sans-papiers.
Les chômeurs. Tout. Mais c'est ça.
Oui, mais c'est une catégorie qui est un peu sans catégorie, finalement, puisque les sans-papiers, les chômeurs...
Ben, c'est-à-dire que ce sont des catégories qui, effectivement, manifestent dans des quartiers... à définir dans des quartiers qui sont marqués très populaires, mais qui, en tout cas, ne sont pas frappés de plein fouet par l'embourgeoisement.
Je voudrais dire sur ces lieux de manifestation que Paris a été le. Il y a une occasion où Paris n'a pas été le théâtre d'une très grande manifestation nationale, c'est pour l'enseignement public confessionnel. Ça s'est passé à Versailles, ce qui était quand même un symbole dont les manifestants ne se rendaient peut-être pas vraiment compte de la signification très, disons, contre-productive que cela pouvait avoir sur leur cause.
Non, même, oui, c'est-à-dire qu'à Paris aussi, c'est les plus grands. C'est les lycées publics qui sont très cotés, et non les lycées privés, finalement.
Oui, mais Versailles, c'est... pourquoi Versailles, alors que les Champs-Élysées étaient là, disponibles, parce que cette manifestation pour l'enseignement libre confessionnel était quand même l'émanation de tout ce que Versailles représente, c'est-à-dire l'Ancien Régime, la tradition, etc.
Alors, moi, je reviendrai. On a dit quelques mots là-dessus, mais juste sur cette population ouvrière, cette population pauvre à Paris. Peut-être revenir sur le sur son éviction progressive de Paris, à part dans les îlots dont on a parlé. Peut-être on pourrait donner un petit peu, on a évoqué vaguement quelques chiffres, et puis derrière ces chiffres, quel est le processus? Est-ce que un jour il n'y aura plus aucun ouvrier à Paris? Est-ce que c'est ce qui se dessine lentement?
C'est hautement probable si la logique sans pitié du libéralisme triomphant l'emporte. C'est évident qu'il n'y aura plus beaucoup de catégories populaires représentées à Paris. Mais il y a toujours des contre-pouvoirs et peut-être que la politique de l'actuelle municipalité très mobilisé pour le logement social, va produire des effets qui auront des effets. Mais c'est vrai que le processus de déprolétarisation de Paris est absolument assez étonnant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de villes au monde qui ont pu changer comme ça aussi vite, en aussi peu de temps. Par exemple, en 62, il y avait presque 600 000 emplois industriels à Paris, 600 000 emplois industriels. Combien y en a-t-il aujourd'hui? Même pas 100 000. Donc vous vous promenez tranquillement, vous faites votre jogging dans le parc André Citroën au petit matin et vous oubliez complètement qu'en 68, c'est pas il y a si longtemps quand même, il y avait 17 000 travailleurs qui produisaient des voitures. Et voilà, et pourtant aujourd'hui on vit les nouvelles générations, enfin vivent naturellement le fait d'avoir un joli jardin tout à fait chic, enfin sur un emplacement où autrefois il y avait tout un travail ouvrier qui n'a pas d'autres traces, enfin qui ne laisse pas d'autres traces dans la mémoire que le fait que ça s'appelle quai André Citroën. Hein, Michel, je parle sous ton contrôle. Il n'y a pas tellement de... Voilà. Dans d'autres endroits, c'est vrai que les usines Panhard dans le 13e arrondissement, il y a toujours le siège social des usines Panhard avec les usines là, avec en briques, avec des toits en dents de scie.
Oui, les sheds. Peut-être on peut dire quelque chose sur, à ce propos de ce qui vient d'être dit sur la mixité. Parce qu'il est bien clair que la mixité sociale à Paris, ça ne veut pas dire que toute la banlieue populaire va venir habiter dans Paris. Ce n'est pas le problème. Donc quel sens ça a la mixité? Puisque de toute façon, il n'est pas question que la ville devienne entièrement populaire. Il n'est pas non plus question de loger vraiment des centaines de milliers de familles populaires arrivant de banlieue. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que Paris étant la capitale, concentrant beaucoup des richesses de la nation, en particulier culturelles, concentrant le pouvoir politique, le pouvoir économique, il y aurait, les familles populaires ne pouvaient plus habiter dans Paris du tout, il y aurait dans l'espace urbain, de manière symbolique, un redoublement de leur exclusion du pouvoir et des prises de décision dans la société et de l'inégalité dans la répartition des richesses qu'ils connaissent déjà. Il y aurait une aggravation symboliquement de l'exclusion des décisions des inégalités sociales et politiques. Donc, se battre pour que les quartiers populaires de Paris restent populaires, c'est d'une certaine manière lutter aussi contre le système libéral et ses inégalités, parce qu'il se traduit dans l'espace, et que se traduisant dans l'espace, c'est comme à l'école, c'est comme dans la culture, c'est comme dans la répartition du revenu, c'est quelque chose qui fait partie de l'ensemble des luttes, c'est pas simplement pour qu'il y ait du pittoresque dans Paris.
Parce que d'une certaine façon, aujourd'hui, Paris devient un peu un musée, que ce soit le centre de Paris ou même le reste de culture ouvrière qu'il y a à Paris. Et cela peut poser aussi problème pour les gens qui y vivent au quotidien, puisque les commerces de proximité disparaissent, les écoles...
Ah oui, parfois. Ça c'est le grand risque pour cette capitale de devenir un immense musée, c'est-à-dire en fait la vraie vie serait en banlieue, enfin les gens inscriraient leur vie, leur projet de vie, leur existence en banlieue, et puis viendraient à Paris déambuler dans les rues, comme ils apprennent à la télévision, dans un espèce de décor qui serait un décor de théâtre. Et ça, c'est le grand risque. Et à mon avis, Paris y perdrait beaucoup, parce que toi, Michel, tu as dit que les pauvres enfin, ne devaient pas constituer le charme de la ville. Mais moi, je pense très sincèrement que c'est la diversité sociologique de Paris qui fait véritablement le charme inouï de cette ville, charme qui est redoublé par le fait que c'est une capitale qui est à l'échelle de la marche à pied.
À l'échelle de la marche à pied, et en même temps, ce qui est amusant aussi dans Paris, c'est qu'il y a une diversité culturelle, on peut voir le monde entier à Paris finalement.
Paris est une ville d'immigration, mais c'est une très vieille tradition, puisque Paris a grossi très vite durant le 19e siècle. Et c'était l'arrivée de gens qui venaient de la province. Par exemple, Zola a décrit la goutte d'or de l'époque. Et Lantier et Gervaise arrivaient de la région de Marseille, d'ailleurs. Arrivaient de Marseille. Ils incarnaient, Zola les a utilisés comme personnages pour faire vivre cette arrivée de provinciaux dans Paris avec toutes les difficultés de vie qu'il y avait. Donc la goutte d'or était un quartier d'immigration, mais d'immigration provinciale, comme beaucoup de quartiers périphériques de Paris. Et puis l'immigration est devenue de plus en plus loin et il y a eu des vagues successives. Ce qui fait que aujourd'hui, Paris est l'une des villes, peut-être la ville où l'une des villes en tout cas, où le taux de population étrangère est l'un des plus élevés. Il est de 15%, alors qu'en France, il est un peu supérieur à 5%. Donc ça fait une différence considérable. Tous les arrondissements de Paris ont un taux d'étrangers qui est supérieur au taux moyen d'étrangers en France. Donc vraiment c'est...
Y compris le 8e arrondissement, les beaux quartiers.
Y compris les beaux quartiers. Alors ça pose il faut relativiser parce que l'étranger n'est pas travailleur immigré. Et le 8e arrondissement a à peu près autant d'étrangers que le 11e ou peut-être le 19e. Il y a un taux important, en tout cas, très important d'étrangers. Mais, bien entendu, dans ces étrangers, il y a les attachés d'ambassade et les cadres d'entreprises étrangères ayant des représentations à Paris.
Alors, il y a eu, pour finir sur l'immigration, il y a juste à côté de là où on est, à La Chapelle, au métro La Chapelle, il y a un quartier qui est un quartier indien, enfin, qui en tout cas, ouais, dont les commerces sont indiens, et où manifestement, il n'y a pas de résidence ou très peu de résidence de la communauté indienne. Où d'un seul coup, il y a une... Je pense que c'est un petit peu pareil par ailleurs il y a dans une partie des quartiers chinois. Il y a une visibilité de cette communauté qui ne correspond absolument pas à leur présence sur le territoire.
Oui, c'est une communauté tamoule qui a effectivement profité d'un vide dans les commerces des rez-de-chaussée des rues entre la gare de l'Est et la gare du Nord pour s'y installer. Et puis le phénomène a fait boule de neige. Et aujourd'hui, on est là face à un véritable centre commercial ethnique tamoul. Et ces tamouls, effectivement, n'habitent pas dans les étages. C'est-à-dire que c'est un commerce qui occupe que simplement les rez-de-chaussée. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cette occupation tamoule, c'est que donc chaque année, le premier dimanche du mois de septembre, ils font un défilé en l'honneur d'un dieu qui s'appelle Ganesh. Très haut en couleur. Et alors, ce qui est intéressant, au-delà de l'anecdote d'un défilé qui est très beau, c'est que avec Michel, on s'est aperçu que les Bretons, jusqu'en 1930, faisaient un défilé autour de la gare Montparnasse. Et alors, on se rend compte, on se pose la question de savoir si dans 50 ans, les Tamouls continueront à faire leur défilé au dieu Ganesh, ou bien s'ils seront tellement intégrés à la société parisienne qu'ils n'auront plus, comme les Bretons, besoin de faire un défilé.
C'est l'exemple du quartier Tamoul met bien en évidence que la logique du ghetto n'est pas très marquée dans Paris. En tout cas, on a l'impression quand on est dans la rue d'être dans un quartier Tamoul à 100%, ce qui est une impression totalement fausse puisque dans les étages, il y a des familles qui étaient là avant l'arrivée des Tamouls et qui sont restées et tout le monde vit très bien ensemble. Donc, voilà un exemple où l'image de la rue, si elle n'est pas corrigée par un savoir de ce qui se passe dans les étages, changerait complètement l'appréciation de ce qu'est ce quartier.
Sitôt que le printemps s'apparaît, on va décolorer des chansons. Les musiciens et les poètes lui font la cour à l'unisson. Le printemps, s'il fallait les croire, son soleil, les fleurs, les oiseaux. Ben chez nous, c'est une autre histoire. Faut croire qu'il vient incognito. Il y a de la fumée dans ma banlieue, il y a des usines. On ne voit jamais, en levant les yeux, si le ciel est bleu. Les pauvres arbres poussiéreux ont mauvaise mine. Et les oiseaux, l'air dégoûté, ne veulent plus chanter. Les matins roses, les soirs tout bordés d'or. On le suppose pour y faire d'autres décors. Ça serait joli dans ma banlieue, sur les cheminées bord. Oui, mais voilà, il y a de la fumée. Mais comme la fumée s'épiloche et se disperse au gré du vent, je sens sitôt que tu m'approches, s'envoler au loin mes tourments. Au ciné ou dans les romances, il y en a sûrement des plus beaux que toi, mais pour moi, c'est sans importance, puisque t'es mon amour à moi. Il y a de la fumée dans ma banlieue, il y a des usines. Mais j'ai trouvé un petit coin bleu là dans tes yeux. Que le ciel soit gris, qu'il soit brumeux, moi je devine. Tout un printemps qui m'éblouit quand tu souris. Mon regard pose partout des reflets d'or. Du bleu, du rose sur l'or gris du décor. C'est merveilleux dans ma banlieue, toute l'année on s'aimera dans la fumée.
Voilà, c'était Lucienne Delisle. Tout ça pour évoquer, on parlait de Paris, mais Paris ne serait rien sans sa banlieue. Et peut-être pour évoquer le rapport de Paris à ses limites, à ses zones, et puis à sa banlieue. Comment se vit et comment se fait l'histoire de Paris et de sa proche banlieue, et de sa banlieue tout court?
C'est-à-dire qu'on a vu depuis le début de cette émission que Paris, ça a été une petite bulle qui a gonflé de manière successive par des enceintes, le plus souvent militaires et une fois fiscales. et qui ces enceintes qui ont vérité. Qui étaient des véritables enceintes. Hein. Paris était totalement clos de murs. On a du mal à l'imaginer, encore qu'il suffit d'imaginer des petites tourelles tout au long du périphérique, de telle sorte que la banlieue, c'était vraiment le lieu du banc des bannis, hein, de ceux qui étaient à l'extérieur. Mais c'était une banlieue particulière, c'est-à-dire que les Gervais et Lantier dont a parlé Michel, avec le travail de Zola sur l'Assommoire, ce sont des gens, on voit bien, qui arrivent de la campagne, qui travaillent à la Goutte d'Or, qui donc acquièrent une espèce de culture urbaine, c'est pas une espèce, qui acquièrent une culture urbaine, et qui ensuite, avec les travaux d'Haussmann, sont expulsés dans la banlieue. Donc les banlieusards ont une culture urbaine, les banlieusards de la région parisienne, et ça c'est une assez grande spécificité. Mais, et je m'arrêterai là-dessus, la clôture entre Paris et la banlieue est une clôture historiquement matérielle. Aujourd'hui, c'est le périphérique plus toutes les la barrière de logements sociaux, d'équipements sportifs qui coupe véritablement Paris de sa banlieue. Et puis, je suis désolée, comme sociologue, je dis que c'est encore une coupure symbolique extrêmement forte. Je prends un seul exemple. La société de sondage Ipsos a décidé de demander à Henri Gaudin, un architecte tout à fait exceptionnel, de construire un magnifique paquebot le long du périphérique à la porte de Gentilly, face au stade Charletti. Voilà. Eh bien, l'adresse d'Ipsos, qui est pourtant localisée sur Gentilly, est une adresse parisienne. L'adresse du centre d'affaires de la Défense, qui est pourtant loin de Paris, hein, ben l'adresse, c'est Paris la Défense. Les universités, Paris 8, Paris 13, Paris 10, alors qu'elles ne sont absolument pas localisées à Paris, ont une adresse parisienne. C'est dire que la symbolique est encore lourde de conséquences.
Et puis, il y a le terrain politique aussi qui... Enfin, on avait cette banlieue rouge face à ce Paris bleu marine, je ne sais pas si on veut faire dans les couleurs, qui pèse aussi assez lourd.
Oui, c'est quelque chose qui est vrai en partie, qu'il faut nuancer, parce que la banlieue, c'est aussi Neuilly, et Neuilly, c'est la ville de Nicolas Sarkozy. Bon, donc, c'est une extension des beaux quartiers parisiens où s'accumule pas mal de richesses. Donc, et qu'il n'a jamais voté à gauche, ça, je peux vous le garantir. Pour ce qui est de la banlieue rouge, qui s'interrompt à l'ouest de Paris. Ce qui, d'ailleurs, met en évidence que il y a certes une frontière qui est importante, mais en même temps, il y a une certaine continuité entre Paris et sa banlieue. À l'ouest, vous avez cette continuité avec Neuilly, qui se traduit par exemple dans les prix immobiliers. Les prix immobiliers de Neuilly sont à peu près les prix immobiliers du 16e. Par contre, vers l'est, vous avez au-delà du Paris populaire de l'est, vous avez des communes populaires et la banlieue rouge, effectivement. C'est plutôt un croissant qu'un cercle. Hein. Ce qu'on peut dire aussi sur cette... c'est très important, Paris et sa banlieue. C'est une des préoccupations de la municipalité actuelle, d'ailleurs, qui essaye de voir comment rompre un peu la frontière. Et c'est très important parce que vous avez chaque jour à peu près 1 million de banlieusards qui viennent travailler dans Paris. Autrement dit, quotidiennement, la ville se construit le matin, d'une certaine manière, et se déconstruit le soir, puisque ce n'est pas la même population qui est dans la ville le jour et la nuit, et même en soirée. On peut dire aussi que Paris s'est bien étendu en banlieue. Paris y a exporté ses morts. Les grands cimetières parisiens sont à Thiers, Pantin, Bagneux. Paris a exporté aussi ses pauvres à une certaine période en construisant de grands ensembles d'HLM, dont celui de la Courneuve, des 4000, qui dépendent de l'office public d'HLM de la ville de Paris. Et Paris a aussi exporté ses ordures ménagères. Par exemple, vous avez une grande usine de traitement des ordures ménagères qui se trouve à Ivry, tout près du périphérique, mais en banlieue. Donc Paris a aussi, disons, un peu envoyé vers l'extérieur ce qui pouvait gêner la ville lumière et bourgeoise. Pas entièrement bourgeoise, mais en partie, en allant s'installer en banlieue.
Voilà, bah écoutez, on arrive au bout de cette émission. On va juste donc rappeler que vous étiez là, puisque vous publiez Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, Sociologie de Paris, c'est aux éditions La Découverte, et c'est un repère, 128 pages, donc on l'a déjà dit, et ça coûte...
7,95 €.
Voilà, ça c'est un. Voilà, c'est. Donc voilà, et donc le prochain, ça sera sur, si on a bien compris, sur les châteaux.
Les châteaux. Les châteaux classés monuments historiques et.
Et habités.
Et alors, est-ce que vous vous êtes acheté un château pour pouvoir faire une enquête participative?
Non, on s'est contenté de se laisser inviter.
Mais au mètre carré, le château est certainement un des biens immobiliers les moins chers, au mètre carré. Mais il faut en acheter d'un coup 1300 au mètre carré, c'est ça le problème.
Est-ce que vous allez vous intéresser au château de Bity, juste comme ça? Parce que c'est un château qui me vient, c'est le château des Chirac. C'est peut-être pas un château d'ailleurs.
Non, c'est tout à fait au centre de nos investigations. Parce qu'au fond, ce qu'on montre, c'est que le château est... Dans une société qui valorise l'innovation et le libéralisme, le château est encore un symbole du pouvoir, l'ancienneté étant toujours le critère de l'excellence sociale.
Voilà, et ben donc Michel Pinson, Monique Pinson-Charlot, on vous remercie pour votre magnifique numéro de Dieutis. Vous n'aviez presque pas besoin de nous pour cette émission. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, de 19h à 20h30. Ce soir, autour du micro et derrière la vitre avec ses doigts sur la console, il y avait donc Jérémy, et puis Guillaume, Alex, Juliette, et puis dans le rôle du commissaire politique du CSU, on avait Cédric à nos côtés. Voilà, on vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne.